On avait hâte d'avoir de ces nouvelles. On avait hâte de jaser avec l'ami Derek Blouin-Perry. Vous le reconnaissez, c'est sûr et certain. On lui parle maintenant depuis quelques années. Il est encore une fois en mission humanitaire en Ukraine. C'est une quatrième mission dans le pays pendant cette situation de conflit et de guerre avec la Russie. On aime lui parler avant son départ pour ses différentes missions, pendant, lorsqu'on peut, et ensuite à son retour. Il est en direct de Pokrovsk, en Ukraine. On lui jase. Derek, comment ça va? Content de te parler.
Ça va, ça va. Allez, content de vous parler aussi.
J'ai pas démoli le nom de la ville, là. Pokrovsk.
Pokrovsk.
Ouais, ton Ukrainien est pas mal meilleur que moi. Ouais, merci. C'est où cet endroit-là, Derek? Parle-nous d'où tu es en ce moment.
Alors, on vient juste de quitter, en fait, Pokrovsk, qui est une ville vraiment sur la ligne de front dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, qu'on pourrait appeler un petit peu une ville forteresse. C'est-à-dire que les Russes, ça fait au-dessus d'un an qu'ils essaient de capturer cette ville-là. Puis ils sont encore en train de faire du progrès vers là, mais ils n'ont pas réussi à aller la chercher. Donc, c'est un peu une zone de guerre, c'est un peu un endroit à moitié débâti où il y a des voitures brûlées, calcinées sur le bord des routes, des bâtiments effondrés. Donc vraiment l'enfer sur Terre.
De toutes tes missions, est-ce que c'est, là, tu viens de dire l'enfer sur Terre, de toutes tes missions, c'est-tu l'endroit le plus dangereux où tu es venu en aide?
Oui, vraiment, là, puis sans aucun doute. Là, c'est une... Ça fait quelques jours qu'on a notre tête d'y aller, puis pour la réponse très simple, à tout le monde qu'on a demandé nous ont dit « on y va plus, allez-y plus ». On s'est promené hier dans des tranchées, on a rencontré des soldats, on a vu du monde, on a ramassé de l'information, tout le monde nous a dit la même chose. Présentement, c'est pas le moment. C'est un des endroits les plus dangereux du pays. Il y a deux affaires qui ont rentré à ligne de compte là-dedans, par contre. Il y a encore des civils qui sont pris là-dedans. Et on a été très chanceux au niveau météo. Il y a des très forts vents ce matin, ce qui fait qu'au niveau des drones, au niveau des attaques aériennes, c'est plus difficile de pogner une cible. Fait qu'on s'est levé et on s'est dit « OK, on essaye ».
Et ça a fonctionné. Est-ce que vous réussissez à sortir justement des citoyens, des civils de cette ville-là où eux tiennent mordicus à demeurer sur place?
Ils tiennent vraiment à rester. Puis c'est super triste, mais... En même temps, c'est des gens souvent pauvres, âgés, qui n'ont rien d'autre. Puis, tu sais, on l'a vécu encore en arrivant tantôt. Jeff, là-bas, on stationne le véhicule à l'intérieur duquel on a peut-être bien une cinquantaine de paquets de nourriture. Et ça prend 30 secondes, on est submergé. Les gens sortent des bâtiments. Tu sais, la ville est déserte. On se promène en voiture, il n'y a pas un chat dans les rues. Le gazon est long, la moitié des affaires sont détruites. Mais dès qu'on parque... Les gens sortent, ça s'en vient sur nous autres, puis go, 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 ça ramasse les provisions. Puis, tu sais, je te dis, toute la livraison, la distribution, tout ça, ça prend en bas de 5 minutes. Hein. Ouais. Tellement que les gens étaient pressés d'avoir du stock.
C'est complètement capoté, Derek. Décris-nous donc un peu là, le genre de situation dans laquelle tu te retrouves, situation de guerre. C'est-tu des balles de fusil qui te passent par-dessus la tête? C'est-tu des explosions à 100-200 mètres de tout? Ça ressemble à quoi le conflit puis la guerre entre les deux armées là, à l'endroit où tu te trouves?
Bien, c'est un mélange de guerre conventionnelle puis de guerre nouvelle. Tu vois, hier soir, Reg, on s'est couché, puis on était sur le bord de s'endormir. Il y a eu 3 explosions. Il appelle ça des bombes CAB. C'est lancé par un jet. Ça a arrivé 3 explosions dans 10 secondes. À peu près 2 coins de rue d'ici, ils ont rasé un bloc appartement. L'explosion fait statique. Les fenêtres ont ouvert dans bâtisse. Puis là, on s'est demandé, on s'est dit, Christus, c'est ça la fin. Il n'a pas eu d'autre la nuit après ça. Et quand tu rentres dans une place comme Pokrovsk, tu vas ajouter à ça tout ce qui est drone. Donc là, c'est des drones vus à la première personne. C'est quelqu'un qui a une lunette de réalité virtuelle puis qui pilote un drone comme ça, qui peut avoir dans les 15 km de portée, certains 30 km. Et ces drones-là, ben ils chassent le monde dans les rues. Simplement, ils pourchassent ses doigts, les voitures, les gens. Donc, tu sais, notre voiture, notre véhicule, fallait le cacher en dessous des arbres d'une certaine façon. Fallait que l'événement se passe rapidement pour éviter d'attirer l'attention sur les gens. Ça veut dire, tout le long qu'on s'approchait de Pokrovsk, mon collègue ukrainien avec qui on organise ça, il me dit, OK, le prochain 15 km, là, on fait ça le gaz au bout, c'est l'endroit le plus dangereux. Puis comme de fait, tout le long de la route, à droite puis à gauche, c'est des chars calcinés qui ont été frappés par des drones. Puis pas dans la dernière année, tu sais, les Ukrainiens, ils les ramassent, ces chars-là. Ça, c'est dans la dernière semaine à peu près, là, qu'ils n'ont pas réussi à les sortir. Puis tu dis, OK, on est chanceux aujourd'hui, ils vendent, c'est une belle journée, on amène ça, puis on se rend. Puis c'est ça. Donc, un équilibre vraiment de ces deux affaires-là, de guerre plus traditionnelle, puis de la guerre au drone, qui est vraiment un autre niveau, là. Super précis comme armement, super stressant aussi, parce que ça peut venir de n'importe où, des airs, de par en dessous.
Comment tu vis avec ce stress-là, Derek?
Mettons que ça a été une grosse journée.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, là, je suis pas sur le front comme toi. Tu m'en parles, puis là, j'ai une boule qui s'est créée dans le ventre.
On est pas mal déstabilisé.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est pour ça que je te pose la question.
Je te dis, c'est la première journée. Ben, tu sais, il y a eu toujours des moments difficiles depuis que je viens ici. Là, vous le savez, puis on a parlé. Là, mais celle-là, tu sais, la quantité de gens qui nous ont dit militaire, volontaires étrangers, humanitaires, tous les gens nous disaient la même chose, allez-y pas. Mon collègue qui est ici, qui lui fait ça quasiment à temps plein, il était moyen. Il dit, je suis allé la semaine passée, c'était moyen, mais il dit, un matin, il y a du vent. Puis notre seul espoir en se rendant là-dedans aujourd'hui, c'est que le vent reste à 60-70 km/h parce qu'au moins les drones ne voleront pas. Puis là, ça laisse rien que tout ce qui est artillerie, puis bombes, puis missiles, puis choses de même. Mais ça serait plus surprenant, mettons, qu'il y ait le temps de nous viser dans le temps que ça prend. Comment est-ce qu'on vit avec ça? Tu sais, le stress, il est là. Mais de voir les gens qui sortent, Jeff, puis Reg, puis Max, on s'est fait enterrer de monde. On a parqué le char, les gens sont arrivés, là, tous les bras tendu pour ramasser les sacs. Puis c'est de la nourriture de base. C'est du gruau, c'est du riz, c'est du sucre, c'est de la farine, un petit peu de chocolat. Puis tu vois les gens dans leurs yeux, le besoin.
Fait que c'est la raison pour laquelle vous y allez, dans le fond.
Oui, ben c'est sûr. Ces gens-là, puis c'est des gens oubliés un peu par tout ça. Ils auraient l'occasion de partir pour des raisons qui leur sont propres. Ils ont une maison là. Ils pensent pas pouvoir se rétablir ailleurs. En tout cas, pour moi, c'est une motivation suffisante. Si ça peut leur mettre un petit peu de sourire, si ça peut leur donner une chance dans tout ça, je pense que ça vaut la peine de continuer à les aider puis à les appuyer là-dedans. C'est la première livraison qu'on a faite. On a eu au moins 3 personnes au-dessus de 90 ans qui sont venues nous voir. Tu sais, ces gens-là, n'importe où ailleurs, sont dans un foyer de retraite, là, puis même un CHSLD avec de l'aide. Puis les petites madames, ils ont de la misère à avancer, puis ils viennent chercher leur sac de gruau. Puis là, tu regardes dans les yeux, puis tu dis, voyons, madame, tu sais, ça vous tente pas. Je peux pas vous parler assez avec eux autres pour leur dire, ça vous tente pas de partir, mais qu'est-ce qu'on peut leur amener comme message à part de ça? Ils savent qu'ils devraient partir, ils savent qu'ils auraient dû partir. Mais on met la main sur l'épaule, puis on lui donne une palette de chocolat, puis on lui fait un petit sourire, puis on dit, lâche pas la patate, puis.
Hey Derek, je te pose cette question-là parce que on se jase depuis un bout, on se connaît, on a cette relation-là. Puis là, je sais que t'es animé par la passion d'aider les gens, puis t'as l'Ukraine et les gens de l'Ukraine tatoués sur le cœur. Mais là, je t'écoute parler, puis que tu te pitches dans des... Puis je comprends ce que tu me dis, là, même si moi, ça me déstabilise, je comprends ce que tu me racontes. Mais y a-tu des moments donnés où t'arrives-tu à un point, c'est-tu aujourd'hui que tu dis « Hey, je suis peut-être en train de pousser ma loc un petit peu trop, j'étire peut-être l'élastique, ça, c'est peut-être trop une zone dangereuse pour m'aventurer? »
Je t'avoue qu'on s'est posé la question aujourd'hui, puis tu sais, même mon collègue ukrainien qui était là la semaine passée, tu sais, comme je disais, il était vraiment pas sûr d'y aller, puis dans le char, à un moment donné, en route, il me regarde, puis il me dit « je suis pas certain ». Il regarde la météo, puis il me dit « écoute, avec le vent, j'ai quand même espoir, mais il faut dire que c'est un gars fantastique, là. Il a adopté un petit enfant, c'est un Ukrainien d'origine, mais il a adopté un enfant qui a été abandonné dans les premiers jours de la guerre. L'enfant, il avait 6 jours, ils l'ont trouvé dans une maternité. Tu sais, le gars, il a pris ça à cœur, puis il dit, moi, je vais aider mon pays, puis je vais faire mes affaires, puis... Et il se consacre à ce genre de projet-là à temps plein. Donc, présentement, moi, je suis comme en supplément de sa tâche. Avec l'argent qu'on a récolté ici à Québec avant de partir, bien, on a livré vraiment des belles quantités de nourriture avec ça, mais on est conscient du risque qu'on prend, puis... Tu sais, ça sera toujours la même chose. Si on n'y va pas, personne n'y va. Ouais. Puis plus que c'est dangereux, moins qu'il y a de monde qui y va. Fait que, tu sais, ces gens-là, ces humains-là de 90 ans, on ne sait jamais si le sac de gruau qu'on lui donne, c'est le dernier qu'ils vont voir avant un mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais, il n'y en a plus d'économie là-bas, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de 1, 2, 3 km des lignes de front, tu te fais bombarder, tu survis. Ces gens-là vivent dans leur sous-sol, ils ont perdu tout ce qu'il y avait, tout ce qui habitait autour. On a marché un peu dans les rues de Pocross après avoir fini tantôt, là, puis je veux dire, c'est un cimetière à ciel ouvert. On est tombé, là, sans joke, on est tombé sur 3 sacs à cadavres dans un dépanneur détruit. On marchait là, Christy, puis les sacs à cadavres sont à terre. Puis il y a plein de gants de paramédics à terre avec du sang, puis tu te dis, ben, d'après moi, ça n'a pas fait. T'sais, ils sont arrivés trop tard, ou ben non, c'est trop grave. Et ces gens-là, ils vivent là-dedans pareil. C'est vraiment. Puis moi, je le dis depuis le début, mon point de vue sur l'Ukraine, c'est une chose, mais les civils qui sont pognés là-dedans, moi, c'est ça qui me bouleverse puis qui m'anime. T'sais, ces gens-là, ils n'ont rien demandé. Ils sont nés dans cette ville-là, puis pour cette raison-là, ils se font tirer dessus, puis ça. Tiens, on a une alarme aérienne juste maintenant qui vient de partir
Ah ouais.
dehors. Est-ce
Aïe.
que je
Hey,
change rien?
ouais. Ben d'ailleurs, on va te laisser, Derek. Tu reviens quand au Québec?
Autour du 5-6 juin.
OK.
Ça achève.
OK, ça achève. OK. Derek, prends soin de toi, cher ami. On a hâte de te voir. Tu passes nous voir dès ton retour, là. Reviens, prends une couple de jours avec ta famille, le temps que tu as de besoin, puis tu passes nous voir en studio?
Ben oui, certain.
OK, sois safe, prends soin de toi, Derek Blouin-Perry, puis merci d'avoir jasé avec nous à Rage Against le matin en direct de l'Ukraine ce matin.
Toujours merci à vous autres de vous intéresser à ce qui se passe là-bas.
Salut, Derek, prends soin
Salut,
de toi,
Derek,
là.
merci.
Wow,
Salut.
je suis. Tu sais,
Ah,
ça.
ben écoute, je vais résumer ce que je ressens par le texto de Vince. Je l'écoute, je suis dans mon bureau au centre-ville et je file tout croche. C'est comme
Ouais.
ça que je me sens.
Ouais. On envoie plein d'ondes positives, évidemment,
Vraiment.
Derek Blouin, Perry. Musique, Slater et Fils, Watatata, oui, reprise de l'émission mythique québécoise, mais sur les airs de Self-Esteem de The Offspring à Boulevard.